Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Science Num, le podcast qui donne la parole à ceux qui cherchent et ceux qui trouvent. Aujourd'hui, mon invité est Nesrin Kahanich. Bonjour Nesrin.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous êtes maître de conférence en cybersécurité et protection de la vie privée à Télécom Sud Paris. Vous êtes également membre de la chaire Valeurs et politiques des informations personnelles de l'Institut Mines Télécom. Vous avez enseigné à l'université de Sheffield en Angleterre. Vous êtes passé par Stanford en Californie. Mais vous n'avez jamais été très loin de TSP puisque vous avez fait votre thèse de doctorat et votre post-doctorat. On comprend que vous avez un grand attachement à TSP.
En fait, j'ai toujours trouvé TSP et le département qui m'a accueilli, donc est resté, un environnement agréable, convivial. J'avais cette liberté à identifier les enjeux à résoudre et à travailler sur des thématiques dont moi-même je suis convaincue, notamment la protection de la vie privée.
Vous avez obtenu un financement de l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, qui s'intitule JCJC pour jeunes chercheuses et jeunes chercheurs. À quels travaux allez-vous consacrer ce budget ?
Mon projet vise à assurer une meilleure protection de la vie privée de façon équitable pour les services de santé. Il s'agit de concevoir de nouveaux protocoles basés sur des briques cryptographiques qui vont permettre de sécuriser l'échange entre plusieurs acteurs et de permettre aussi un calcul collaboratif effectué sur ces données de santé collectées. Donc, ce calcul repose sur des algorithmes d'intelligence artificielle, par exemple l'apprentissage fédéré. Et sur cet aspect, les protocoles que je proposerai doivent satisfaire plusieurs propriétés de sécurité, de vie privée et d'équité également.
Pourquoi avez-vous choisi de travailler sur ce sujet ?
Une bonne question. Parce que, en fait, il y a un grand besoin de collaboration entre les acteurs de santé eux-mêmes et avec les autorités de régulation et les laboratoires de recherche et même les groupes d'assurance. En fait, ceci a été récemment amplifié avec la crise sanitaire où on a souligné un manque de collaboration effective. Ce n'est pas principalement dû à la non-volonté de ces parties ou de ces entités de non collaborer, mais à la rigidité des textes de loi, des recommandations gouvernementales. Parce que quand on parle de données de santé, ce sont des données considérées comme hautement sensibles. Donc il fallait proposer des protocoles permettant d'assurer cette collaboration de façon respectueuse de la vie privée.
Oui, on sait que la protection des données personnelles, c'est un enjeu fondamental.
Il faut que je mentionne qu'il existe des réflexions à ce sujet, notamment à travers l'implémentation de l'apprentissage fédéré ou autre. On dénombre encore plusieurs attaques contre la vie privée. Par exemple, on peut identifier un individu à partir d'un jeu de données, où on peut reconstruire le profil d'un individu en se basant sur les échanges. Ces algorithmes qui vont être très sensibles au biais, et plusieurs études récentes ont montré que cet apprentissage augmenterait les risques d'identification d'individus à peu près 20%. Donc il y a vraiment de vrais verrous technologiques auxquels il faut réfléchir et travailler à les résoudre.
On comprend la théorie, mais maintenant, dans la pratique, comment vous mettez en place cette protection de la vie privée plus performante ?
Ma proposition principale porte sur l'implémentation des échanges chiffrés entre les acteurs qui disposent des données de santé, par exemple une clinique, et ceux qui vont assurer le calcul, un serveur de calcul distant. Donc cet échange basé sur des techniques de chiffrement avancées va permettre aux acteurs de calcul de mieux cibler et élire les acteurs pertinents disposant d'un jeu de données qui satisfasse leurs besoins de calcul. Sans être capable d'identifier des individus parmi les informations échangées, ou même d'inférer certaines propriétés des jeux de données dont les acteurs finaux disposent. Donc ainsi, je vais diminuer considérablement le risque de plusieurs attaques contre la vie privée, notamment ceux d'identification de reconstruction dont j'avais parlé.
Quand vous parlez de protection de la vie privée de façon équitable, ça veut dire quoi exactement ?
En fait, l'équité est une notion très large. Et le problème d'équité auquel je fais référence est en lien avec le biais que peut engendrer certains algorithmes d'intelligence artificielle s'ils sont entraînés eux-mêmes sur des données qui impactent les individus. Là, on parle de données de santé. Donc, par exemple, quand on utilise ces algorithmes pour évaluer le risque de développer certaines maladies, ou quand on utilise automatiquement un CV, ou même quand on fait de la justice prédictive, en essayant de comprendre les récidives. Donc, ces systèmes-là vont capturer ces biais-là, ou même les amplifier. Donc là, moi, je m'intéresse à ces biais-là et à les comprendre, à les corriger dans un contexte de service de santé, en particulier avec des données très sensibles.
Et les entreprises dans tout ça, est-ce qu'il y en a qui s'impliquent dans vos travaux ?
Oui, il y a deux industriels. Medtronic, qui est une entreprise de technologie de santé, et également Reliance, qui est un groupe d'assurance en particulier pour les services de santé. Ces deux industriels s'intéressent aux traitements respectueux de la vie privée, notamment dans le cadre de leur activité qui touche à des données très, très sensibles. Mais en général, en étant membre de la chaire Valeurs et politique des informations personnelles, j'ai travaillé avec plusieurs entreprises qui ont soutenu les travaux de la chaire. En particulier, je peux citer par exemple Quant, c'est le moteur de recherche respectueux de la vie privée. On a proposé des solutions qui ont été publiées dans des conférences internationales également.
Et dans votre champ de recherche, quels sont les verrous technologiques à lever ?
Tout d'abord, l'accès aux données de santé. L'accès aux données réelles de santé est très très difficile, voire impossible pour certains types de données si on parle d'ADN ou autre. Et ceci en raison de contraintes à la fois juridiques, mais aussi éthiques. On a aussi le problème de la rareté et le manque de diversité des jeux de données en eux-mêmes. Le calcul effectué sur un seul site médical peut être insuffisant et ne peut pas atteindre le degré de précision souhaité, par exemple pour la précision de classifier certaines maladies. Donc cela va rendre les solutions de soins de santé basées sur l'intelligence artificielle ou sur les algorithmes intelligents inefficaces. Et finalement, cette complexité d'algorithmes de chiffrement avancé, on va avoir des conséquences sur le coût de communication. Donc il faut trouver en fait le bon équilibre pour résoudre cette équation à trois paramètres, la vie privée, l'équité et les performances du système qui va implémenter ses fonctions. Ce qui présente un enjeu majeur en fait au développement des nouvelles applications.
On sait qu'il y a des attaques qui sont de plus en plus sophistiquées, ciblées contre la vie privée. C'est pris en considération au plus haut niveau de l'État. Vous confirmez ?
Il y a une sensibilisation croissante du public et des nouvelles législations, telles que le RGPD ou même tous les textes en discussion au niveau européen. Donc il est urgent de relever les défis de la confidentialité de l'intelligence artificielle et de la protection de la vie privée en général, afin d'ouvrir la voie à la prochaine génération des systèmes pour se positionner.
Donc il y a un vrai enjeu de compétitivité.
Je pense en particulier pour l'Europe, qui était toujours parmi les premiers dans ces textes protecteurs des citoyens et de la vie privée des citoyens, qu'être à la pointe de la protection de la vie privée ne doit pas se traduire par une perte de compétitivité pour développer et bénéficier des nouvelles avancées de l'IA. Il faut aller dans ce sens-là et proposer de nouvelles solutions parce qu'il y a un besoin urgent d'une confidentialité et il faut adapter ces techniques émergentes à ce contexte général.
Nesrine, nous avons compris les enjeux de la vie privée, un sujet à la pointe dont on entend parler de plus en plus. Mais comment motivez-vous les jeunes ingénieurs pour travailler avec vous ?
Il y a tout un contexte national et européen autour de ces sujets. Il y a des besoins concrets et le futur va dépendre si on peut vraiment résoudre ces enjeux, à la fois de la vie privée, d'équité des conceptions, si je parle du contexte de l'intelligence artificielle par exemple. Donc les systèmes de l'IA sont amenés à se développer. Si on n'est pas capable de résoudre ces enjeux maintenant, on risque d'avoir des enjeux sociétaux très très importants.
Merci Nesrine. Pour ceux qui veulent aller plus loin, une ou deux lectures à recommander sur les algorithmes intelligents ?
Un premier livre de Cathy O'Neill, Weapons of Math Destruction. Donc ce livre-là, il décrit comment les algorithmes elles peuvent amplifier les inégalités et fragiliser les démocraties. Donc ça, dans un cadre général, mais aussi un livre un peu plus académique, je peux dire, qui décrit des enjeux récents aussi autour de la protection de la vie privée. Il s'appelle « Privacy is Hard and Seven Other Myths » de Hopman. Il parle de la collecte et de traitement de données. Il montre comment la technologie elle est rentrée dans nos vies. Il propose des solutions et quelques recommandations en termes de conception d'algorithmes et en termes d'utilisation en fait, de la nouvelle technologie.
Merci Nesrin Kahanich. C'était Science Num, un podcast soutenu par le Carnot Télécom et Société Numérique. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt.